Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Maria. Bonjour, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette étape numéro 2 de ce parcours des pères pour aimer. Et nous allons plonger aujourd'hui au cœur du réacteur. C'est celui de notre intimité avec le Seigneur, celui de notre intimité avec le Christ dans la prière, dans le combat spirituel. Voilà, chers amis. Chers pères de famille, je sais que vous êtes certainement nombreux à nous écouter. Je ne peux pas aujourd'hui éluder cette actualité pénible et difficile, mais cette actualité qui nous conduit précisément à devoir nous dépouiller devant le Seigneur de la suffisance qui peut nous rester, de l'orgueil, de notre vision aussi de l'Église qui pourrait rayonner d'une splendeur sociale ou bien d'une puissance temporelle. Ce matin, nous sommes à genoux. Nous sommes à genoux et en silence, touchés par la pénitence, devant la douleur de ces victimes d'abus, devant aussi ce scandale, parce que l'Église est en première ligne dans la consolation, dans la sainteté, et elle a failli, et elle a failli en première ligne. Et si ces scandales nous tétanisent autant, et s'ils. Ces scandales émeuvent autant la société, c'est aussi précisément parce que cette société attendait autre chose de l'Église, autre chose de la présence des pères, des religieux, mais aussi des laïcs. Le Seigneur nous conduit à la communion, le Seigneur nous conduit à l'amour dans le respect de ce sanctuaire qu'est notre corps, que ce sanctuaire qu'est notre conscience. Et nous aurons l'occasion d'en parler longtemps ensemble cette année. Nous voyons à quel point, dans le combat spirituel, on l'expérimente aussi. Il y a cette tension en nous entre la coopération, la communion et des forces de prédation. Et qui ces forces de prédation commencent toujours vers cette recherche de la satisfaction de l'ego. Et je crois que nous sommes au cœur de ce mystère. Voilà. Je ne pouvais pas. Ne pas en parler, mais ça nous plonge aussi vers ce recours à la prière du pénitent. Nicolas nous en dira certainement tout à l'heure quelques mots. Il a invité de nombreux hommes ce week-end et nous avons commencé cette semaine dans les cercles des chevaliers de Colomb, dans ses conseils, à prier les psaumes, des psaumes de pénitence pour nous laisser vraiment. Habité par ce repentir et puis affiner notre conscience ecclésiale pour nous remettre vraiment sur des bases et puis porter aussi le poids les uns des autres. Même nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais je suis convaincu dans l'espérance que cette épreuve nous affermira dans la foi, nous fera davantage grandir et aussi dans la compréhension de l'infinie dignité de la personne humaine, corps, âme, esprit, et nous voyons à quel point notre corps est le temple de l'esprit. Quand nous sommes blessés, quand nous sommes souffrants, nous mesurons aussi ce que représente la mémoire du corps. Et à travers le scandale des abus sexuels, c'est toute la question de la dignité profonde de la personne humaine qui crie vers le Seigneur, qui crie vers l'humanité aussi, ce besoin de consolation, ce besoin d'être célébré, eh bien cette personne humaine a été abusée, a été bafouée et a été sacralisée, enfin, ouais, a été victime d'actes vraiment de sacrilège. D'où l'importance aujourd'hui de replonger dans l'intimité avec le Christ, dans notre vie de prière. Pourquoi prions-nous? Cette prière est vraiment la relation vivante des enfants de Dieu avec notre Père très bon, qui est le créateur de la vie. Le cardinal Sarah évoquait qu'à partir du moment où on perdait cet arrimage à la prière, eh bien tout était possible, toutes les vies c'était possible. Cette prière, elle nous conduit tous les jours à nous tenir debout devant Dieu et à nous élever avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de délicatesse. Notre esprit, notre cœur vers lui, à nous rendre disponibles, à faire l'aumône de sa grâce, et puis pour mieux rentrer vraiment en communion et en service avec les personnes qui nous sont confiées. Récemment, un catholique assez engagé disait, j'ai une devise qui est à genoux devant Dieu et debout devant les hommes, et il me semble que quand on approfondit la vie de prière, il nous faut nous mettre à l'inverse, debout devant Dieu. Nous sommes debout devant Dieu pour célébrer sa résurrection, pour rentrer dans cette communion d'amour avec lui. Et étant debout devant Dieu, nous sommes à genoux devant les hommes pour les servir. Gandhi disait que la prière était la clé du matin et le verrou du soir. Il nous ouvre un espace de liberté intérieure, d'intimité, pour retrouver le Seigneur avec toute la mobilisation de notre personne, et en particulier cet effort de volonté qui va s'unir pour essayer de rejoindre la volonté de Dieu. Vous savez, un peu comme un exercice sportif, il y a différentes étapes. Je voudrais vous rappeler les principales formes un peu de prière qu'on peut rencontrer. C'est cette prière d'adoration, où nous sommes petits devant la grandeur de Dieu. Nous sommes petits face au mystère de la création, ce mystère de la création qui nous transforme tous les jours. Chaque respiration, chaque mouvement est une célébration de la création et de la résurrection du Seigneur. Donc cette prière d'adoration est importante. Il y a aussi ces prières de demande. Nous voyons que nous nous sentons tellement limités, tellement finis, que nous demandons au Seigneur de l'aide. Et c'est d'abord une reconnaissance de notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Et puis c'est aussi une prière qui nous montre que nous avons confiance en lui, et nous savons que par sa grâce, il veut notre bonheur, et pour peu que nous lâchions des sécurités. Cette prière de demande, cette prière d'intercession, nous nous remettons à la miséricorde de Dieu en portant aussi devant le Seigneur les préoccupations des personnes dans le besoin, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Cette prière d'intercession est importante parce qu'elle est fondamentalement missionnaire. Quand nous rencontrons des personnes, n'hésitons pas à évoquer notre identité de chrétien et puis leur dire « As-tu des intentions de prière ?» Et je demanderai au Seigneur d'intercéder pour toi. Donc nous associons quelque part la prière des personnes qui sont plus ou moins près de l'Église à cette aumône vis-à-vis du Seigneur. Donc j'évoquais l'adoration, la demande, l'intercession et puis cette prière d'action de grâce pour transmettre aussi au Seigneur cette reconnaissance parce que nous sommes en vie, parce que nous sommes liés les uns aux autres et parce que nous voyons aussi tous ces petits changements, ces petits signes, ces petites marques de la résurrection autour de nous, pour peu que nous voulions ouvrir nos yeux. Et puis cette prière de louange, enfin, cette prière de louange qui rejoint un peu cette prière aussi d'adoration où nous avons peu de mots, où ce sont des exclamations de joie. Nous ne sommes pas là pour faire des grands raisonnements, mais on retrouve l'âme de l'enfant qui se réjouit, qui chante, qui rend gloire pour un mystère qui le dépasse. Saint Grégoire de Nazianze, évoquant la prière, disait « Il nous faut nous souvenir de Dieu plus souvent que nous respirons ». Donc il y a des moments formels pour la prière, nous pourrons l'évoquer, mais il y a aussi un état de prière un peu permanent, et on ne peut pas passer sous silence cette respiration, ce récit du pèlerin russe qui dit « Seigneur, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi, pécheur ». La vie de prière passe toujours par ces petits cris intérieurs, ce petit souffle, cette respiration vitale qui dit « Seigneur, tu es avec moi, tu es avec moi ». Et le Seigneur nous le dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». La prière, ce n'est pas... le Seigneur n'a pas réellement besoin de notre prière. Il voit tout de nous, il sait tout de nous. C'est un geste d'amour, c'est un geste qui nous permet de nous réorienter sur l'axe qui est prévu pour nous de toute éternité et qui nous permet de nous unifier avec dans notre relation avec le Seigneur et dans le mystère ici de notre incarnation. La prière, disait Sainte Thérèse, c'est le sacrifice qui me donne toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Et très souvent, dans le quotidien de nos journées, on voit que ce petit moment de retrait, d'intimité avec le Seigneur dans la prière va nous donner ce recul dans les actes que nous avons à poser, dans les gestes que nous allons faire pour essayer de davantage sacraliser notre quotidien, mettre un peu de sainteté dans tout ce que nous avons à faire. Donc il y a cette respiration de la prière, et puis il y a ces petits moments, il me semble, que nous devons inonder par la grâce de Dieu de façon plus formelle dans nos vies de chaque jour. Alors, vous savez, dans les groupes des chevaliers de Colomb, les hommes, ils sont dans l'action. Hein, donc il faut des petits moments comme ça, assez précis. Alors on essaye, au moment où on se lève, de faire un grand signe de croix pour nous recentrer. D'ailleurs, la croix, c'est notre corps. Pour nous recentrer sur notre identité de baptisé et puis notre identité de missionnaire pour transformer le monde. Et on se met sous la protection de Saint Joseph. Donc c'est tout simple. Et puis ensuite, les uns et les autres, selon leurs affinités spirituelles, font faire ces prières de consécration pour mobiliser la communion des saints avec nous. Et puis, nous sommes aussi très sensibles à ces moments de bénédicité, à ces moments de bénédiction. Quand on retrouve nos enfants, avant de commencer un repas, essayer de vivre ces moments fondamentalement eucharistiques et liturgiques qui sont dans notre vie. Et là, on est vraiment invité à accueillir tout ce que l'Église nous donne pour faire de nos vies des vies de prière et des vies profondément liturgiques. La prière, c'est vraiment cette amitié avec le Seigneur. Et une amitié, on sait qu'elle doit se travailler, elle doit se bosser, cette amitié. Et ça nécessite un effort, un don de soi généreux et puis une communication constante avec le Seigneur. Et cette intimité avec le Christ qui nous extrait du bouillonnement de nos émotions et du bouillonnement de notre vie en interaction avec énormément de choses, avec des charges mentales extrêmement lourdes, on voit à quel point, quand nous sommes profondément unis avec le Seigneur, eh bien, il y a comme cette phase de recul, de clarté qui va nous permettre de retrouver une vraie sérénité et même une vraie lucidité dans tout ce que nous avons à réaliser et à poser dans notre vie. C'est vraiment toujours cette dynamique d'accueil de l'amour divin, la prière. Ce n'est pas quelque chose de répétitif, ce n'est pas quelque chose de bavard, mais c'est quelque chose qui nous rejoint dans notre incarnation et dans notre souffle. Tout de suite vous proposer de rejoindre un frère dans la foi, un frère avec qui les cœurs des hommes peuvent s'ouvrir, qui est Nicolas Bettini. Et Nicolas va nous partager, on va en parler ensemble, ces modalités aussi très pratiques. Les hommes sont toujours pratiques, hein, pour vivre davantage dans nos quotidiens, là où nous sommes plantés, dans nos devoirs d'État, avec nos épouses, avec nos frères, auprès de nos enfants, cette vie de prière. Et puis on parlera très simplement aussi de ce combat spirituel. On sait ce que c'est, hein. Tout à l'heure, j'évoquais cette prédation. Ça peut être aussi un découragement, une assédie, un mal du siècle, comme on disait au 19e siècle, où précisément les forces de résurrection, les forces de vie, elles sont éteintes face à une forme de mélancolie. Et peut-être aujourd'hui sommes-nous aussi finalement atteints comme par cette résurgence, avec trop d'informations, trop d'écartèlement. Il y a une perte d'énergie, et notre énergie nous vient du Seigneur et doit retourner vraiment par le Seigneur. Les frères d'Orient parlent beaucoup de cette énergie. Et on en parle beaucoup dans le sport aussi, de cette énergie créatrice. Voici, Seigneur, que je fais toute chose nouvelle, qui nous permet humblement de transformer le monde. Est-ce que mon frère Nicolas est avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour, cher Nicolas. Comment vas-tu ?
Très bien.
Eh bien, plongeons dans ce combat et dans cette respiration de la prière. Je sais que tu as toujours des pépites et des fulgurances à nous partager, et ce matin, en venant, je mesurais à quel point c'était une bénédiction de pouvoir bénéficier comme ça de frères avec des histoires diverses et complémentaires, mais qui avec qui on sait qu'on aura toujours une épaule solide Et puis une grande amitié qui permet de livrer vraiment, sans être jugé, le cœur de ce qu'on vit, le cœur de nos découragements et puis de nos combats, même dans la vie spirituelle. Et
Oui,
donc cette amitié, j'invite tous les auditeurs à essayer de les construire. Il y a une singularité aussi dans ces amitiés d'hommes. Nous sommes des combattants pour nous unir au Christ et puis pour mieux faire aimer et connaître le nom de Jésus. Nicolas, est-ce que tu peux nous partager des choses en particulier que tu as pu vivre dans ce compagnonnage avec le Seigneur dans la vie de prière, peut-être parler
oui.
du combat Exodus et puis de ce combat spirituel-là.
Oui, bah pour commencer, comme tu le disais, les relations entre hommes sont une grande aide pour grandir spirituellement. En t'écoutant, tu parlais beaucoup de l'amitié qui est un vrai réconfort pour grandir dans la foi, qui est un pilier très solide. Mais il y a aussi les relations intergénérationnelles aussi. Je pensais en t'écoutant, tu vois, à cette rencontre, j'aimais beaucoup mon grand-père, enfin, j'aimais beaucoup mes deux grands-pères, mais j'ai pu passer plus de temps avec l'un d'eux. Et lors d'une rencontre, je devais être grand adolescent, jeune adulte. Il me disait, mais tu sais, la plus grande question à laquelle tu dois répondre dans ta vie, et tu dois y répondre personnellement, c'est qui est le Christ pour toi? Il l'a posé lui-même en chair et en os à ses disciples, qui ont fait des réponses qu'on connaît. Ils ont répondu d'abord par ce que disaient les gens autour d'eux, et puis c'est Saint Pierre qui a posé un acte de foi, et qui est probablement l'acte de foi qui a posé les bases de l'Église que nous connaissons aujourd'hui, qui existe depuis 2000 ans. Voilà, tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle, tu es le Christ, celui qui a été envoyé par Dieu pour le révéler lui-même, pour révéler Dieu lui-même. Voilà, donc la prière ne peut pas commencer sans acte de foi, sans une reconnaissance de qui est le Christ pour nous dans nos vies. Et si cette prise de conscience ne s'établit pas, on ne peut pas poser l'acte de la prière qui devient comme un acte le plus important en fait de la journée. Donc c'est un acte qui est éminemment personnel, qui s'appuie sur notre foi, sur la connaissance qu'on a du Christ, donc du coup qui conduit après par ailleurs à un approfondissement de qui il est. Et puis après, on a la joie effectivement de le vivre en communauté avec toute la communauté chrétienne qui existe autour de nous, diocésaine, voilà. Et on se renforce dans l'amitié, quoi. Mais c'est le point de départ, le pilier, c'est la rencontre avec le Christ et l'acte de foi qu'on peut poser. Voilà. Et une autre chose, tu disais très justement tout à l'heure, tu disais comment le Christ n'a pas besoin de notre prière, Dieu n'a pas besoin de notre prière, mais lorsque l'on reconnaît la noblesse de ce qu'a fait le Christ pour nous, on s'ennoblit nous-mêmes à reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Et donc en fait, la prière est comment dire, intimement un acte de transformation personnelle, puisque l'on reconnaît la grandeur de Dieu dans la louange, dans l'intercession, dans tout ce que tu as énuméré, dans tout ce que tu as évoqué, Arnaud. Il y a une transformation progressive qui se fait de soi-même pour un plus grand bien. C'est sans doute Nietzsche disait avec sa vision des choses, avec sa vision de l'être humain, du surhomme, qui n'était pas tout à fait chrétienne, mais il disait il y a une grande joie à se savoir plus capable que ce que l'on croyait. Eh bien, le chrétien est capable d'une plus grande joie encore, puisqu'il est capable de se transformer, ou en tout cas de devenir de plus en plus proche de ce qu'est Dieu, dans sa noblesse et dans sa perfection. Alors c'est un combat, effectivement, on va en reparler, mais il y a une grande joie à se dire qu'au contact du Christ, en le reconnaissant comme le Christ, comme la perfection humaine, on se transforme nous-mêmes un petit peu, déjà en le reconnaissant. Voilà. Voilà.
Ouais, non, c'est très juste. Et puis je rebondis avec deux choses. Il y avait un footballeur qui avait toujours qui s'appelait un footballeur brésilien qui s'appelait Kaká et qui était très fervent évangélique et qui avait toujours un bracelet sur lequel était écrit les initiales ce que ferait Jésus à ma place. Et ça rebondit toujours enfin sur Saint Paul, ce que disait Saint Paul aux Galates, je vis. Et on a évoqué à quel point l'homme, il vit, il a ce souffle, il a ce pouvoir de transformer le monde et de servir le monde. Mais à un moment donné, dans l'intimité de la prière, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est de laisser la place au Christ dans notre vie, et pour servir aussi des autres Christs que sont nos prochains. Et toute cette inspiration, elle nous vient de notre relation intime avec le Seigneur dans la prière. Mais je vais rebondir après, enfin, tout de suite sur cette question du combat, parce que la prière, on évoquait, elle mobilise notre volonté, mais c'est un combat. C'est un combat, et même dans ces moments de prière, on voit à quel point les distractions sont là, le découragement est là, la dispersion est présente. Est-ce que tu peux nous partager quelques petites pépites sur le combat spirituel, alors le micro-combat, mais aussi le macro-combat auquel aujourd'hui les hommes sont confrontés?
Oui, bah tu parlais des orthodoxes tout à l'heure. On fait le constat sans cesse de ce qu'ils ont dit de belle façon, c'est que le péché qui est en nous, c'est une maladie de l'âme. Voilà, on voudrait ne pas le voir, on voudrait ne pas en vivre, mais en réalité, c'est quand même présent en nous. C'est notre énergie vitale, notre énergie qui devrait être complètement tendue vers Dieu. Bah, en fait, elle manque sa cible. Et donc, de fait, le corps de la femme, par exemple, tout simplement, qui est magnifique, peut être l'objet comment dire, d'un regard qui est plus du tout un regard de louange ou de reconnaissance de la beauté, mais un regard d'appropriation, quoi. Voilà. Il y a un poète anglais qui disait, le corps de la femme est trop grand pour le regard de l'homme. Et c'est sans doute vrai. Dieu a créé les femmes très belles. Et sans doute qu'il faut le reconnaître, mais reconnaître aussi que dans notre regard, il y a la probabilité qu'on puisse en faire une prédation. Alors, il y a deux façons pour un homme de regarder une femme, soit un regard de collaboration, soit un regard de prédation. Et cette bascule de l'un vers l'autre, elle peut se faire dans l'instant. Donc c'est un point typique de vigilance des hommes aujourd'hui dans une société qui est hyper érotisée, où pour vendre du parfum, on met des femmes à moitié nues et on le met sur tous les abribus. Donc oui, il y a des combats. Alors celui-là est le plus peut-être celui dont on parle le plus aujourd'hui autour de la pornographie, de la dépendance des hommes sur ces images-là, qui est un vrai combat que les femmes peut-être sous-estiment. Il y a de vrais enjeux vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis des adultes aussi. Et il y a donc de vrais enjeux. La vie aussi, par ailleurs, sur d'autres sujets, nous donne des coups, hein. Il y a des hommes qui perdent leur travail, qui peinent à en retrouver, à retrouver la dignité de nourrir leur famille, qui sont dans le si d'ailleurs certains hommes vivent ça dans l'auditeur, dans l'audition, dans le, parmi les auditeurs aujourd'hui, ben on pense bien à eux, hein. Ce sont des difficultés que les hommes vivent souvent très très fort, hein, et parfois mal. Voilà, il y a d'autres addictions aussi qu'on peut rencontrer. Donc bref, la vie nous donne des coups par moment, et donc il y a donc toute forme de combat. Des combats dans l'intimité du regard ou de combats dans ce que la société nous amène à vivre, eh bien, le Seigneur aussi pourvoit dans les aides qu'il a autour de nous. Donc il y a sans doute dans la prière dont tu parlais, Arnaud, une régularité à mettre en place dans la vie, puisque ça peut devenir dans ces moments de lutte une colonne vertébrale, d'avoir ce que tu appelais bellement la clé du matin et la clé du soir, l'ouverture de la journée dans la prière et la fermeture. Et puis, il y a toute la sagesse de l'Église qui propose des temps de prière, que ce soit la prière des heures pour ceux qui sont parfois les plus courageux, les plus disciplinés, ou des temps de prière spontanée, de louange. Mais il faut bien reconnaître qu'avec les années, ce sont des choses qui peuvent s'épuiser. C'est des pratiques qui peuvent être très très structurantes et très aidantes pour les crises dont je parlais, ou pour les combats dont je parlais, mais qui peuvent être très difficiles à garder dans le temps. Et donc effectivement, l'Église en bonne mère, l'Esprit Saint fait apparaître des initiatives. Alors tu as parlé tout à l'heure du parcours Exodus, qui est apparu il y a quelques années aux États-Unis, ce sont des séminaristes qui se sont tournés vers leurs performateurs pour leur dire, bah, écoutez, nous, on a des enjeux aujourd'hui, c'est un parcours qui est très actuel, hein, qui a quelques années. Ces séminaristes ont élaboré avec leurs responsables de formation un parcours pour se sortir un petit peu d'un certain nombre d'addictions qui sont celles de la nourriture, des écrans. Et ça a marché dans les séminaires américains, si bien qu'ils se sont tournés vers des laïcs pour en faire une formule qui s'adresse aux laïcs. Et c'est quelque chose qui est en fait tout droit tiré de la tradition de l'Église en définitive, et qui utilise quelque chose que peut-être on n'utilise pas encore assez ici. Enfin, moi en tout cas, c'est une expérience très forte que j'ai faite dans ce parcours-là, qui est la force de la fraternité. On avance en groupe, on prie les uns pour les autres, on se contacte régulièrement, soit en binôme, soit en équipe de façon hebdomadaire, pour respecter un programme qu'on s'est défini à l'avance, qui correspond bien au programme du carême, par exemple. Donc, c'est un programme qui commence généralement avant, un peu avant le carême, en janvier, qui finit avec Pâques. Et c'est une réactualisation de ce que la vie du chrétien peut être avec du commentaire de la parole de Dieu, des temps d'échange entre frères, des temps de prière personnelle, la pratique des sacrements. Et moi, je crois qu'il faut bien ça pour mener une vie chrétienne aujourd'hui. Il faut un peu tout ça. Alors, on n'est pas obligé de le vivre sur cette modalité-là, mais cette modalité-là, en tout cas, nous réactualise un petit peu la proposition de l'Église pour les hommes chrétiens. Voilà, en sachant qu'il y a des formules qui sont apparues pour les femmes aussi, avec des modulations. Mais en tout cas, pour les hommes, elle est puissante et les fruits sont là. Les fruits des hommes qui vivent ça sont réels. Il y a vraiment beaucoup de témoignages maintenant dessus. Et il y a d'ailleurs d'autres personnes, d'autres communautés chrétiennes qui s'en sont inspirées pour créer encore d'autres parcours. Donc il y a quelque chose de vertueux là-dedans, une certaine forme d'ambition à se réapproprier pour lutter contre tout ce qu'on vient de dire, là, les coûts de la vie, les tentations de se réfugier dans des addictions. Et probablement que la tradition de l'Église recèle des trésors dans lesquels on peut puiser encore maintenant. Voilà.
Et pour rebondir, avec Nicolas, on a eu l'occasion de faire ce parcours Exodus, et on était plusieurs à constater que le premier espace de combat, c'était celui de la prière silencieuse. Souvent, alors l'exigence, elle est forte, hein, c'est une heure de prière, et c'est vrai que dans cette rencontre avec le Seigneur dans la prière, il y a cette convocation du silence. Et aujourd'hui, on voit à quel point, même en voulant faire le bien, en voulant, et bien on convoque quelque part des outils de distraction, en particulier comme les écrans ou bien des places qui nous permettent de regarder à droite à gauche. Il y a un point d'assaise qui est très important dans ce chemin vers la prière et qui passe par un renoncement, il me semble, un renoncement au bruit, un renoncement aussi à la foule, parce que la foule, ça nous rassure aussi, hein, et quand on a cette expérience de dépouillement, c'est pour ça que les retraites en silence aujourd'hui sont si puissantes. On en sort complètement régénéré. Ça nous permettra ensuite de réharmoniser et de revisiter un peu notre relation avec le monde. Dans l'humilité de notre vie de prière, parce que c'est un combat de tous les jours, on repart tous les jours. Nicolas l'évoquait, l'homme a besoin de règles. Une respiration, elle avance selon un rythme, et en particulier les hommes et les pères. Peut-être que cette respiration et ce souffle continu, on essaye de le vivre, mais on a plus de mal à le faire. On a besoin de rendez-vous peut-être un peu plus formels pour le vivre. Et je voudrais juste évoquer l'importance des bénédicités, de tous ces petits moments importants, de la prière aussi avant et après la messe. On ne pas aller à la messe comme on va au cinéma ou à je ne sais quelconque autre activité. C'est un rendez-vous vraiment d'intimité avec le Seigneur, de communion avec le peuple de Dieu, et puis vraiment de régénération de tout ce que nous sommes. Et il y a là, je pense qu'il y a la question de la méditation des textes avant qui nous sont reçus dans la tradition de l'Église en communion avec les autres. L'exercice de la Lectio Divina est aussi un exercice qui nous transforme profondément. Convoquer la parole de Dieu aujourd'hui, ici et maintenant, pour nous, dans notre histoire. Et je dis souvent que, en quelque sorte, notre vie, c'est une compétition avec trois mi-temps. La première mi-temps, c'est la parole de Dieu dans la première partie de la messe. Et elle se travaille en amont, dans la Lectio Divina, dans la méditation de tous ces textes et la réception de ces textes. La deuxième mi-temps, c'est tout le canon eucharistique, ce qui suppose aussi que la confession est permis de nettoyer la table pour que la table du festin soit propre et puis qu'on puisse recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. signe du salut. Et puis la troisième mi-temps, bah, c'est ce qu'on appelle le sacrement du frère, c'est notre vie missionnaire en relation les uns avec les autres. Et là, on est envoyé dans le monde. Voilà. Et donc, alors les personnes qui peuvent aller à la messe plus souvent, bah, c'est une force supplémentaire. Moi, il m'est arrivé d'aller mécaniquement à la messe et je vois qu'aujourd'hui, le point d'effort, c'est ce retrait volontaire du bouillonnement du monde pour retrouver le Seigneur dans la gratuité, en faisant aumône pour qu'il transforme nos vies et puisse et creuser en nous, creuser, creuser, creuser en nous. Et parce qu'on a énormément on joue des rôles, hein, on a des masques, et de faire, même en voulant le bien, finalement, on est toujours dans une forme d'instrumentalisation avec des mécanismes de sécurité, etc. Il y a un moment où il faut les mettre à bas l'orgueil, le diable a des tactiques pour se laisser transformer vraiment dans le silence. Et puis l'abandon. On va écouter une musique que j'aime beaucoup, qui évoque l'âme du Christ, un chant de méditation que nous pouvons entendre souvent dans des veillées d'adoration. C'est une. Je crois qu'il est important dans cette émission sur la prière de convoquer aussi la liturgie de l'Église. En plus, c'est une liturgie relativement contemporaine, hein, qui a moins de 30 ans. L'âme du Christ qui nous transforme, pour peu que nous lui laissions prendre toute sa place dans notre vie. Laissons-nous vraiment transformer par ce chant liturgique qui a déjà ému et rapproché du Seigneur des milliers d'âmes. Oui, mais merci Nicolas, nous évoquions cette intimité avec le Christ, qui vient nourrir et transformer l'intimité avec nos frères qui sont des autres Christ. Je crois que dans ce temps, ce moment de retrait d'intimité avec le Seigneur en lien avec d'autres frères dans la foi, c'est quelque chose qu'on commence à vivre aujourd'hui en France. Il y a une perte un peu de pudeur ou de respect humain qui fait que les hommes, les pères, on a régulièrement des témoignages d'hommes qui sont à genoux dans leur vie. Nous n'hésitons pas en tout cas à dire à quel point le ciment de la prière est un carburant précieux qui amène de la consolation. Nous n'hésitons pas à dire à des frères que dans leurs difficultés, nous ne les jugeons pas. Il y a comme une urgence aujourd'hui à faire tomber des barrières de peut-être de conformisme bourgeois qui stérilisent la parole face à cet enjeu d'annoncer le Christ et puis de nous entraîner vers la sainteté. Est-ce que Nicolas, tu peux nous partager peut-être dans ta vie familiale ou dans ta vie professionnelle ou fraternelle, comment est-ce que finalement tu n'hésites plus à promouvoir l'importance de la prière et de l'intimité au Christ dans notre vie? Il me semble que depuis 10 ans, il y a des choses qui bougent et nous pouvons rendre grâce pour ça.
Oui, moi, enfin, en France, il y a très particulièrement, il y a une chape de plomb, hein, sur les questions spirituelles. Les débats sont orientés, on nous amène à poser les questions spirituelles sous un angle qui n'est pas forcément le bon. On a besoin de retrouver une grande liberté. Les débats sur les signes ostentatoires, tout ça, c'est des choses qui sont, enfin, je pense que beaucoup de catholiques sont blessés de la façon dont on les regarde. Il faut retrouver une liberté dans le mouvement de ce qu'on disait tout à l'heure. Si le Christ est bien le Fils de Dieu, il nous a sauvés. Donc on doit se regarder soi-même, voir comment nous avons été sauvés et voir que les autres, nos contemporains, ont besoin d'être sauvés, et donc on doit leur annoncer, on ne doit pas leur annoncer de façon péremptoire, voilà, mais il y a des espaces comment dire, de témoignages qui sont très simples. Moi, je travaille dans le domaine de la santé, qui est un domaine où il y a effectivement beaucoup, beaucoup de soif spirituelle. Eh bien, la France nous oblige à être complètement laïcisée. Or, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Les médecins libéraux, on n'est pas tenus, on n'est pas des salariés, donc on peut dans nos cabinets mettre des signes religieux qui peuvent être des points d'appel pour les patients qui en ont besoin. Dire ah ben vous avez un crucifix, vous êtes croyant, et une conversation s'engage. Et si quelqu'un traverse une période difficile dans sa maladie, la relation de soins, qui est le cœur de l'entretien, peut amener à des échanges, à des témoignages et à un petit accompagnement ponctuel qui va peut-être être lumineux pour la personne qui s'est accrochée justement au crucifix et qu'on se serait privé de ce moment-là si on ne l'avait pas mis. Donc, bon, c'est vrai que la laïcité aujourd'hui est vécue d'une façon très agressive en France. Mais il y a des espaces où on peut continuer à être chrétien, à le montrer discrètement, avec délicatesse. Ça peut être l'inverse, hein, quand un médecin fait une visite dans un hôpital, il est là pour soigner, pour prescrire, pour soigner. Mais sur la table de nuit, s'il y a un signe religieux, on peut entamer une conversation. Ça va demander un tout petit peu plus de temps. La visite sera un petit peu plus longue, on prendra un petit peu plus sur son temps de sommeil, mais on peut amener à avoir une conversation de qualité, et des fois, bien sûr, ce sont les malades eux-mêmes, bien sûr, qui nous évangélisent. Ça, ce sont pour mes exemples de vie. Dans nos familles, le père de famille a un devoir d'éduquer ses enfants, et tu parlais de la parole de Dieu tout à l'heure, de préparer la parole de Dieu avant la messe, mais je dirais même qu'un père de famille, le samedi soir, peut prendre du temps pour lire la parole du dimanche et prévoir, en plus de l'homélie que les enfants recevront à la messe ou que ces grands adolescents ne recevront pas parce que peut-être qu'ils ont perdu la pratique, ou voilà, ben, à table le dimanche, d'avoir un petit commentaire de la parole de Dieu. Si les enfants sont étudiants, ben, d'envoyer un petit SMS en disant « voilà, moi dans le cœur j'ai reçu sur la parole de Dieu tel enseignement ». Il y a une petite veille active à avoir sur le rayonnement qu'on a de notre foi. Il y a de multiples façons de transmettre aujourd'hui le salut qu'on a reçu. Je finirai juste sur une dernière chose. Je suis très touché en ce moment par ce petit passage de la Bible dans le chapitre 2 de la Genèse. Lorsque Dieu a créé la terre, il a créé l'homme et la femme, mais il a créé l'homme un petit peu avant. Et il y a eu cet instant de complicité où Dieu a demandé à l'homme de nommer tous les animaux et de cultiver son jardin. Je pense sincèrement que tous les hommes ont dans leur cœur une nostalgie de cette relation à Dieu, d'une relation père-fils. Et je pense que c'est à nous, les catholiques, de porter cette tension, d'aller la réveiller, non pas brutalement, mais d'aller voir nos contemporains et de leur parler de Dieu. Et nos contemporains, c'est aussi nos enfants, notre épouse, nos collègues de travail, et ainsi de suite. Enfin, il y a une prolongation chez les catholiques de la mission d'Israël d'être le peuple élu, mais non pas pour lui, non pas pour se regarder, mais pour être celui qui parle à Dieu de l'humanité. Et donc il y a un double échange, on doit parler de Dieu aux hommes et on doit parler des hommes à Dieu, à mon avis, aujourd'hui. Et c'est urgent, il me semble.
Merci Nicolas, et puis c'est vrai qu'on repense à ce que disait Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, en particulier dans ces moments où le clergé est en grande souffrance. Il disait dans la prière, le Seigneur, Dieu m'avise, je l'avise et il m'avise. Et il disait vraiment comment la prière dilate nos cœurs étroits. Il les élargit pour les rendre capables d'aimer Dieu et puis aussi d'aimer ce monde pour le transformer. Et en rebondissant sur ce que tu disais Nicolas, on a tous été présents au congrès mission, et au congrès mission, avant ce congrès mission, il y avait un petit sondage qui montrait en gros que 50% des Français étaient un peu indifférents à la chose religieuse. Mais ceci dit, il y avait une majorité qui acceptait que les personnes prient pour eux. Et cette prière peut être ce lien, c'est-à-dire que de façon très spontanée, le Seigneur voit le tréfonds des cœurs, mais ne... porter, nous, en tant que chrétiens, la prière des autres en disant bah, tu as une difficulté dans ton boulot, dans ta vie de famille, eh bien, je vais prier pour toi, je vais aller déposer une bougie à l'église. Et puis, voilà, tu vas t'unir aussi à la communion des saints, de ceux qui intercèdent. Et pour terminer, chers auditeurs, cette émission, d'abord, je vais remercier vraiment Nicolas de cette complicité fraternelle qui est féconde, hein, qui continuera à l'être. On aura certainement l'occasion de se retrouver sur Radio Maria. Je voudrais terminer par cette phrase de saint Augustin, parce que la prière est un moment d'intimité, de pauvreté, d'aumône, comme on l'a évoqué. Et saint Augustin disait la chose suivante, et ça nous rejoint vraiment. Souvent, le Seigneur ne nous accorde pas ce que nous désirons. Et il termine, pour nous accorder ce que nous désirons encore davantage. Le Seigneur nous accorde ce que nous désirons encore davantage. Encore faut-il le rejoindre, l'écouter, l'aimer, et puis dans ce lieu privilégié qu'est cet instant de la prière. Voilà, chers auditeurs, n'oublions jamais que le Seigneur nous accordera ce que nous désirons encore davantage. Affinons notre désir, affinons notre cri vers le ciel. Travaillons toujours ces gestes justes de coopération, de communion avec notre prochain, et puis entraînons-nous vers la sainteté. C'est notre destinée ici et maintenant. Le Seigneur est ressuscité, soyons dans l'allégresse, même si l'heure est difficile, et accueillons ces instants pour un bien à venir. Merci, chers auditeurs, et puis retrouvons-nous le mois prochain pour une nouvelle étape de notre parcours des Pères pour aimer.